Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Pour la première séquence de cette émission, nous avons rendez-vous avec Antonio Pereira. Antonio nous propose de découvrir en moto et à allure décontractée les magnifiques paysages du nord du Portugal, au cœur d'une nature inconnue du grand tourisme et réservée aux seuls initiés. Si vous voulez plus d'infos sur les balades que propose Antonio, rendez-vous page 32 du nouveau calendrier des motoclubs qui vient juste d'être distribué dans toutes les bonnes crèmeries motardes. La visite de Lyon en Solex, oui, ce sera possible en 2021. Déjà en octobre dernier, Arnaud du Brélon de Lyon nous proposait la visite en Solex de la troisième plus grande ville de France. Si vous voulez plus d'informations après cette séquence, rendez-vous sur le site lebrelondelyon.fr. Au mois d'octobre dernier, nous parlions de la Normandie Beach Race, un rendez-vous à ne surtout pas manquer en 2021. La Normandie Beach Race aura lieu au mois de septembre prochain. Dans cette séquence aussi, la participation de Quentin Morel, notre explorateur à moto qui recherche des fonds pour réaliser un film documentaire sur les origines et l'histoire de la moto française. Et pour terminer ce magazine, rendez-vous avec Yves du Crépy Garage qui organise la Old Race les 21, 22 et 23 mai prochains à Clermarais. Plus d'infos sur le calendrier des motoclubs, page 33. Voilà, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne écoute sur les ondes de Radio Campus Lille.
You and me, we are roaming around the world. You
Antonio, bonjour. Et Francis également, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Michel. Alors, Antonio, tu nous proposes de découvrir le nord du Portugal à moto.
Tout à fait, là, pour les motards voyageurs.
Alors, raconte-nous comment ça se passe.
Écoutez, c'est très simple, on prend un billet d'avion avec une compagnie low cost, on ne va pas faire de pub, il y en a beaucoup, hein, donc ça ne revient pas très cher jusqu'à Porto. L'aéroport d'arrivée, c'est Porto, il y a des vols de Charleroi, de Lille, de Beauvais, enfin de toute la grande région.
Et on visite quelle région là-bas au Portugal ?
On visite le Minho. Le Minho, c'est au nord.
Explique-nous un peu, hein, parce que pour les gens qui ne connaissent pas trop le Portugal, c'est au nord du Portugal.
Ouais, tout à fait. Le Minho, c'est la région nord du Portugal. C'est le cœur de la nation portugaise. C'est dans le Minho qu'est né le Portugal. Donc le premier roi portugais est né dans le Minho. Les premières batailles pour chasser les Sarrasins de l'époque sont
parties. Donc il n'y avait pas de Portugal avant, il n'y avait que cette région.
C'était des provinces, les provinces affiliées à l'Espagne. En fait, il y avait des rois portugais. Français, il y avait les ducs de Bourgogne, parce qu'il faut savoir que le premier roi portugais, donc le fondateur de la nation portugaise, a du sang français.
Parce que du temps de Napoléon, il y a Napoléon qui va aller, bricoler là-bas, qui va envahir
C'était avant. Avant Napoléon, Napoléon est arrivé. Napoléon a essayé.
Non, mais j'ai vu ça un peu.
De prendre le Portugal, hein, comme la grande majorité de l'Europe, mais il a été bloqué par les Anglais. Hein. Le Portugal a une alliance très très ancienne avec l'Angleterre, donc ça l'a bloqué. Mais enfin, ça c'est l'histoire.
Hein. On en parlera.
On en parlera.
C'est toujours intéressant, quoi.
Et puis quand on balade là-bas en moto, on visite des sites, on voit d'ailleurs la ville de Valence, qui est une ville fortifiée, une des plus grandes forteresses d'Europe, la Valence du Minho. Valence du Minho, c'est le nom exact, sur le bord du Minho. Et on voit d'ailleurs les murailles de Valence. Il y a une maquette où on voit les dégâts faits par les troupes de Napoléon. Ça, c'était beaucoup après.
Alors, on y vient quand même, on y arrive.
Ils sont fiers de ne pas avoir laissé rentrer les Portugais, les Français. Moi, par contre, j'invite tous les Français à y venir.
Francis, lui, a participé à l'une de tes semaines de visite, hein, là-bas, au Portugal. Donc, tu nous diras si la réalité, hein, si c'est bien ou pas bien.
Tout à fait. Donc, Francis... au micro. Donc, je confirme, hein, j'ai passé une semaine au mois de mai avec Antonio et puis des amis de chez Triomphe. Hein, on avait constitué un groupe d'amis et on a eu la chance de découvrir sous une autre forme que la voiture. On l'a découvert en moto sur des 400 cm3 de petites mâches qui sont très volontaires. Une très belle région à visiter. Donc j'ai la chance aussi d'avoir visité celle du sud, mais alors celle du nord, donc le Minho, c'est une région très verdoyante à proximité de la mer.
Apparemment, ça commence bien pour Antonio.
Tout à fait.
C'est bon, parce que tu aurais dit l'inverse, tu vois.
J'ai un deuxième témoin ici présent, monsieur Perlinski, qui peut aussi dire.
Ah, bah oui, mais ça, je savais pas.
Monsieur Perlinski,
je savais
Bruno,
pas que monsieur Perlinski avait également visité Minho.
J'ai visité, je confirme, c'est exceptionnel.
Ce qu'il n'a pas aimé, c'est la boisson locale.
Il n'a pas aimé la boisson locale.
Le Porto, le vigno vert.
C'est Porto là-bas, non, je suis
poison. Ah, ouais, bien sûr, le Porto, c'est intéressant. Mais la boisson, c'est le vigno vert qui est un vin très soft. Ce n'est pas un vin très alcoolisé.
D'accord.
Et qui passe quand il fait chaud. Donc
ça passe bien.
Moi, j'appelle ça le Perrier portugais.
Le Perrier portugais, d'accord.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool.
Okay. Et Bruno n'a pas aimé.
Non,
m'étonne.
C'est une boutade.
C'est la quantité.
C'est une boutade. There's a black crow I follow every night. With a pack of wolves who running by my side. Through a darkness as dark as any mine, with a full moon hanging dead up in the sky, there's no one doing. There's no place in this wilderness for kindness. There's
There's no peace in accepting what is lost. There's no chance for a soul to find salvation. Some things can't be had at any cost. There's no one to do. All that I've done. There's no forgiving. This wayward son.
Antonio, tu me fais ça, oh, c'est
là,
quoi
là, je ne m'attendais pas à la musique.
D'habitude, dans l'émission, c'est rare d'entendre ça.
Non, tout à fait, on est au cœur du Portugal, là. Et en plus du nord du Portugal.
Ah oui.
C'est une chanson plus nordique que sudiste.
D'accord. Donc, pourquoi il y a une différence aussi en Portugal entre les nordistes et les sudistes?
Oui, bien sûr.
On pourrait faire un bienvenue chez les Portugais du nord.
On pourrait, il y a... c'est peut-être pas aussi, aussi frappant qu'en France entre un Marseillais et un Dunkerquois, mais il y a quand même une différence entre... le Portugal ne fait que 900 km, hein, oui. Nord-Sud. Il y a une différence, déjà une différence climatique. Hein. Le Nord est plus tempéré. Donc, oui.
Alors tempéré, ça veut dire quoi? Il pleut beaucoup? Il fait froid?
Non, il pleut.
Il fait quelle température aujourd'hui là-bas au Portugal?
J'ai été la semaine dernière, j'ai eu 3 jours de moto, donc j'ai roulé pendant 3 jours, il faisait 15 degrés.
15 degrés, donc, bon, c'est
comme... Il n'y a pas eu de pluie.
Remarque, par ici, ça va aussi. Hein, mis à part aujourd'hui.
Bruno était venu au mois d'octobre, il y a eu un petit peu de pluie, il me semble. Hein.
On a mangé tous les jours en terrasse. Hein.
Oui, d'accord. Donc le climat du nord, bon, c'est pas le climat des Hauts-de-France. Hein. Quand on parle du nord, c'est le nord du Portugal. Ça reste quand même... ce qui est bien, c'est qu'il ne fait pas très, très, très chaud, contrairement au sud. Il fait très, très, très chaud. On ne peut pas rouler en moto, même en mois de juin. Si vous avez un blouson, c'est compliqué. Le nord, on supporte quand même. C'est agréable. Quoi.
D'accord. Donc, on va revenir un petit peu sur ce que tu proposes. Hein, c'est faire des balades et découvrir la région de Minho, qui est au nord du Portugal. Mais d'abord, pourquoi tu proposes... on va dire que tu es né là-bas. Tu es né au Portugal. Donc, tu es portugais. T'as deux,
je suis portugais. Bien que mes parents soient naturalisés français, je suis toujours portugais.
Voilà, à l'âge de 7 ans, tu quittes le Portugal et avec tes parents et tu viens vivre ici, tu suis tes parents forcément.
À Roubaix-Tourcoing, textile, c'était la grande...
Oui, il y avait du travail, il y avait du boulot.
Ce sont des entrepreneurs français, hein, les grands patrons qui allaient chercher la main d'œuvre là-bas. Hein,
donc, ah oui, carrément.
Ils ne sont pas venus par hasard, hein, c'est un peu comme les mineurs.
Et à l'inverse, là-bas au Portugal, il n'y avait pas beaucoup de boulot.
Voilà, et puis... le nord du Portugal, qui est une région déjà assez industrialisée, donc il y avait une main-d'œuvre qualifiée. Donc les grands patrons de l'époque étaient malins, ils allaient chercher des gens qualifiés, ils avaient pu les former. Mon père travaillait dans le textile au Portugal, il était teinturier dans une teinturie. Il arrivait en France, ils ont été le chercher parce que c'était un travail qualifié déjà là-bas.
D'accord. Donc on est venu chercher tes parents, et forcément toi t'as suivi. Donc
j'ai fait mon école en France. J'ai pu, en fait, je suis plus jamais retourné au Portugal de toute mon adolescence. Et je suis arrivé en France, j'avais 8 ans et demi. Et la première fois que je suis retourné au Portugal après, j'avais 25 ans. Donc je suis quand même resté longtemps sans mettre les pieds au Portugal. Parce que mon père ne voulait plus en entendre parler.
Ah oui, carrément.
Oui, oui, parce qu'il a quitté le Portugal, dit le Portugal ne m'a rien donné. Contrairement à beaucoup de Portugais, où c'était un peu, il y avait une mentalité un peu particulière. Il s'est naturalisé français. Moi, si je ne suis pas français, c'était pour une question d'armée. Quoi. Je ne voulais pas faire l'armée, j'étais un peu réfractaire à l'armée. Et si je me naturalisais français, j'étais obligé de faire l'armée. Donc en restant portugais, j'ai échappé au service militaire. C'est uniquement pour ça.
Bon. Donc, tu as travaillé aussi ici dans le Nord, voilà, et tu as de la chance parce que toi, tu n'as pas la retraite à point, donc tu bénéficies de ta retraite parce que maintenant, tu es en retraite et tu te dis, tiens, je vais faire découvrir ma région que j'aime bien là-bas au Portugal. Exactement. Et je vais monter des semaines. Alors, il y a une semaine au mois de mars, une semaine au mois d'avril.
Il y a une semaine, ça commence au mois de mars, enfin, ce n'était pas prévu le mois de mars, mais il y a des amis qui m'ont demandé de leur organiser une session. Mais sinon, ça commence officiellement aux vacances de Pâques.
Voilà.
Donc Pâques, il y a deux semaines en avril, il y aura deux semaines au mois de mai, il y aura une semaine au mois de juin, donc c'est quand même, et puis après il y aura trois semaines au mois de septembre, donc ça reste quand même limité. Hein. Donc si vous voulez venir, ça sera ni juillet ni mois d'août, hein, parce que c'est déjà c'est
plus
compliqué.
Il y a trop de touristes.
Ouais, et puis l'hôtellerie, les prix, on n'a pas le même service, hein, donc c'est vraiment des balades.
Alors,
au cœur du pays, au cœur du milieu.
Tu as un site internet, donc je suis allé, je me suis permis d'imprimer les pages. Sympa. Donc, il est marqué comment ça marche. Alors d'abord, je pré-réserve ma semaine.
Oui, malheureusement, la pré-réservation ne fonctionne pas, car le calendrier est HS et je ne peux pas le faire fonctionner. Donc, la meilleure moyen de pré-réserver, c'est de m'appeler ou d'envoyer un petit mail sur le site.
Il n'y a pas de téléphone. Bon, voilà.
Si sur le site, il y a le...
Tu vois, sur l'écran, qui a imprimé, il n'y a pas le numéro. De téléphone. Bon, enfin bref, il faut quand même prendre contact avec toi pour.
Un petit mail, un petit SMS et je recontacte.
Hein, alors, il y a deux solutions après. Hein, parce que là, il y a un avion dessiné sur l'écran. On suit dans ton site. Hein.
Oui.
Je me rends à Porto. Oui. Donc, la ville qui n'est pas trop loin de la région.
Porto, à 70 km du camp de base qui est situé à Caminha. En fait, on a un hôtel de base. Oui. Un hôtel ou un hébergement en villa, mais un alors, hébergement de base.
Je me rends à Porto par mes propres moyens, donc c'est moi qui réserve, l'avion, c'est la personne qui va réserver son avion.
Voilà.
Toi, tu t'occupes pas de ça.
Non.
Voilà. Tu précises qu'il y a des vols low cost réguliers entre ici, les Quins ou...
Les Quins pendant les périodes où mes sessions sont ouvertes. Les vols de les Quins, c'est le mardi, le jeudi et le samedi. Donc, il y a que trois vols de les Quins pour Porto. Hein.
Voilà.
Après, les aéroports limitrophes, il y a Beauvais, Charleroi, c'est tous les jours. Hein.
Donc, arrivé à Porto, on me transfère à... Alors là, tu sais, Caminha, c'est ça ?
Caminha, c'est la petite commune locale. Quoi.
Voilà. Donc, tu viens chercher les gens donc, en voiture, voilà.
Je les accueille à l'aéroport.
Voilà. Donc là, à partir de là, on est tranquille.
Tranquille.
Non, parce que tu sais, les Français, ils ne parlent pas bien anglais ou portugais, voilà. Donc, ils n'ont pas peur, ça va. Ils sont pris en charge.
C'est un accueil personnalisé, pris en charge. Ils n'ont plus, à part dire merci, obrigado, et à la fin, adeus, adieu. Ils n'ont pas besoin de parler portugais.
Et je m'installe, arrivé là-bas, je m'installe à l'hôtel. Hein?
Je les installe.
Trois étoiles.
Oui, ouais, non.
C'est toi qui les installes.
Certains sont venus à la maison. Hein, donc, quand c'est des petits groupes, c'est à la maison. Mais l'hôtel est très bien... Quand on est nombreux, c'est l'hôtel, quoi.
Voilà. Et je découvre la région en moto. Alors là, il y a deux solutions. Alors, soit qu'on peut venir avec sa moto.
Oui.
On peut venir de Lille, traverser toute la France et une bonne partie de l'Espagne. Hein.
Pour les vrais baroudeurs, oui.
Pour ceux qui n'auraient pas peur de faire des kilomètres. Hein. Donc ça, c'est une solution. Ou la solution qu'on vient d'exprimer, là, c'est prendre l'avion.
Moto, hein. D'ailleurs, mon ami Francis, ici présent, il est venu une fois avec sa moto et une fois en formule moto sur place.
Alors, Francis, tu as préféré quelle version?
Bah, écoute, les deux sont intéressantes, puisque la première, donc, c'était celle où je suis parti de Seclin jusqu'à Mollédo.
Mollédo, Camille.
Donc, il y avait 1850 km, on l'a fait en 4 jours, c'est-à-dire assez tranquille. On s'est dit, on fait à peu près 500 km par jour, et le dernier, c'était même un peu plus court. Et donc, bah, ça nous a permis de découvrir aussi la culture espagnole dans cette région. Région très aride, hein, pour arriver après au nord du Portugal à la frontière, là, en traversant le fleuve qui s'appelle le Minho. Et puis bah, là, du coup, on était heureux d'avoir accompli cette longue distance pour après découvrir avec Antonio eh bien, sa région qu'il connaît parfaitement. Et comme tout à l'heure, tu le précisais, alors, il maîtrise bien sûr les deux langues, voire plus, mais avec lui, on est vraiment tranquille. Quoi.
Oui, parce que l'espagnol et le portugais, c'est...
Ah, c'est deux langues différentes. Hein.
Ah bon,
c'est comme tu prendrais l'allemand et le néerlandais, quoi.
Ils n'arrivent pas à se comprendre.
Si, ils se comprennent très bien. Si. Mais ils se comprennent, mais ils évitent... Non, c'est...
Ah bon,
Portugal, ils veulent qu'on parle portugais, et les espagnols, ils n'aiment pas trop. Ils font semblant de ne pas comprendre, parfois.
D'accord. Ah bon, ah, c'est un peu comme dans les Flandres.
Ouais, en gros, il y a des petits... c'est partout pareil. Hein. Ouais. Chacun défend...
Le long trajet, je n'avais fait qu'une roquette de chez Triomphe.
Ah oui, tu as une roquette 3. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis, la deuxième fois, je l'ai découvert donc, en allant en avion et puis sur des motos MASH en 460 m³.
Voilà. Donc, si on prend l'avion, bah, il nous faut une moto. Et là, Antonio, tu proposes...
J'ai 7 motos à disposition.
Voilà.
Il y a 7 motos sur place. C'est des motos biplace, donc on peut venir en couple, hein, sans aucun souci. Hein. Certains sont... j'allais dire Bruno est venu en couple, on est venu tout seul, mais il a bien vu qu'il y avait des couples, quand Bruno est venu.
Pas de problème. Et donc c'est des
mâches,
400 cm3.
Très bien adapté au parcours qu'on fait là-bas, parce qu'on ne prend pas d'autoroute, c'est des petites routes en visite, donc c'est assez nerveux quand même pour... On a l'impression de rouler sur une grosse machine alors qu'on est sur une petite machine maniable, bien. J'ai rien à dire contre MASH.
Et ça dure pendant 6 jours.
6 jours, oui. 6 jours de moto. Quoi.
Alors on revient toujours au même endroit, au même hôtel.
Voilà, tous les soirs.
On fait un parcours et on revient toujours au même hôtel.
En Marguerite, oui. Voilà. En gros,
Marguerite, tu m'as dit.
En gros,
c'est ça.
On fait 150 km par jour, en gros. Ouais.
J'ai vu plus quand même sur. Oui. 200,
ouais,
150,
200. On a un petit peu réduit parce que bon, quand il y a des couples, les filles veulent profiter de la piscine, veulent profiter de la plage. Mais quand c'est des
magasins,
les distances, je m'adapte un petit peu au profil du moteur sur place.
Jour 2, donc le deuxième jour, c'est 150 km.
Ouais, en gros.
Donc là, on part à Viana do Castelo.
Viana do Castelo, ouais. Hein, c'est la préfecture locale.
D'accord.
C'est une ville Viana do Castelo, c'est une ville, je l'avais noté, qui fait environ 90 000 habitants. Quoi. C'est déjà une ville à 90 000 habitants, c'est une petite ville. Hein. Camiña, qui a 20 km, la ville où on est basé, elle fait 16 000 habitants.
Allez, on va faire 220 km le lendemain.
Oui.
On va à Rio Minho.
On fait de la vallée du Minho. Quoi.
Oui.
Parce que si tu veux, la région s'appelle le Minho, dû au fleuve qui fait la frontière Espagne.
Oui.
C'est le fleuve qui a donné nom à la région. Comme on parle de la Seine ou la Seine-Maritime, enfin c'est le fleuve.
Bon, bah écoute, je propose de passer un morceau de musique et on se retrouve au Portugal juste après.
Ok.
My baby, she loves me. My baby, she needs me. My baby, she clothes me. Me. My baby look good for me.
le slogan d'Antonio, c'est les voyages forment la jeunesse et la moto la sauvegarde.
Bah c'est exact.
C'est vrai.
moi, je pense que oui. Hein. c'est prouvé. Voilà. Hein.
Allez, on est en milieu de semaine, on continue. Parcours. J'ai vu quand même, il y a un jour où on fait 250 km, jour 7.
Ouais, on fait
Parc national Pénada, bon, Jeunesse, Jerez.
Le programme est un petit peu aussi en fonction des groupes. Hein. Faut pas, certains sont moins rouleurs que d'autres, donc je m'adapte. Hein, on peut couper. Hein. Quand on marque 250 km, c'est par des petites routes. Alors,
on peut dire par exemple, non, aujourd'hui, on n'a pas envie.
Tout à fait.
Parce que si on va avec notre chère et tendre, elle va nous dire il faut faire 250 km dans la journée, on n'a pas envie.
Tout est
tu peux modifier le parcours.
Tout est proposé, rien n'est obligatoire. Non, c'est pas un bus qui a un parcours défini. Hein. On s'adapte. Hein.
Le prix de la vie là-bas au Portugal, c'est cher ?
Non, c'est pas très cher. Mais de toute façon, les formules que je propose, c'est des prix tout compris. Hein. Tous les repas, toutes les boissons.
Le midi, c'est aussi compris.
Oui, tout est compris. C'est en pension complète, du petit-déj, repas du
midi. Petit-déj, midi et soir.
Soir. Et pour une personne seule, avec l'essence de la moto, hein, je parle pour les gens qui prennent la moto sur place. Hein. Après, ceux qui descendent avec leur moto, il n'y aura que les repas à payer. Il faut compter 990 € hébergement, tout compris.
990 € pour une semaine pour avec semaine. La moto.
La moto, l'assurance.
Sauf le... Oui, Francis.
Le casque. L'équipement.
Ah oui, alors l'équipement, est-ce qu'il faut prendre son équipement avec
Il faut prendre son blouson, ses chaussures moto, enfin son équipement, oui. Les gants.
Le casque, forcément aussi.
Le casque est conseillé, mais c'est pas obligatoire. J'ai deux casques par moto, mais bon, je conseille quand même, parce que ceux qui prennent des billets d'avion, c'est Ryanair, le casque passe en bagage à main, donc il n'y a pas de souci. Hein. Plein de personnes sont venues avec leur casque.
Quelques vêtements pour la semaine.
Oui, bon, un jean, des
t-shirts. Alors ça commence au mois de mars, la température, il faut prendre quoi? Des polaires au mois de mars ou ensuite?
Un polaire, c'est quand même conseillé. Hein.
Un polaire, c'est conseillé.
Vaut mieux être trois billets et se déshabiller. Les motos sont équipées de sacoches.
Tu fais une session au mois de mars, donc au mois de mars, on prend un petit polaire quand même.
Oui,
et après avril, ça va...
Avril, c'est le plein
printemps. C'est le printemps là, qui
normalement,
arrive.
Normalement, c'est bon, il n'y a pas de...
Quel est le meilleur moment pour faire ça?
Le meilleur moment, honnêtement, il y a...
Toi qui connais bien le Portugal.
Le mois de juin, parce que les journées sont longues. Et puis après, le mois de septembre, c'est un mois merveilleux parce que la nature a des couleurs extraordinaires. C'est les vendanges aussi. Comme c'est une région...
Oui. C'est ce qu'il nous disait Bruno. Hein, Bruno, ouais. T'as goûté le vin, c'est ça?
Le vino verdi.
Le vino verdi. Ouais. Voilà. Alors, c'est quoi, Bruno?
Le Perrier portugais.
Ah, tu m'as dit que t'avais pas bu.
Non, c'est un très bon vin blanc,
ouais.
Hein, qu'on boit frais et
légèrement
en apéro tout le temps. Quoi. Hein, c'est populaire là-bas. Ça et puis la bière. Hein.
Ouais. Et on mange de la morue.
Oh. Ouais, bacalao.
Oui, on mange la morue. Vous pouvez manger la morue tous les jours.
Tout est fait à base de morue. Tous les jours, on peut en manger.
Non. Bien, on peut.
C'est tradition là-bas au Portugal.
Oui, on peut manger la morue tous les jours. Il y a aucun souci. Mais faut goûter au moins une fois. Si vous aimez la morue, vous pouvez en avoir tous les jours. Mais bon, il y a de la très très bonne viande.
C'est préparé autrement. Enfin, morue à sauce tomate, morue machin, oui, morue.
On dit qu'il y a 365 façons de préparer la morue au Portugal.
Une
façon différente chaque jour, quoi. Bon, mais bon, c'est une fois les cuites, une fois les elle est rôtie, une fois aller au four, une fois aller... enfin bref...
Comment ça se fait que c'est parce que la morue, c'est le plat du Portugal.
Non, c'était, bon, à l'époque, il n'y avait pas de frigo, de congélateur, tous ces trucs-là. Et ils ont trouvé le moyen de saler la morue. Oui. Donc la morue, c'est du cabillaud. Hein, du cabillaud qu'ils allaient pêcher à Terre-Neuve. Et ils l'ont ramené, ils l'ont coupé... enfin, j'allais dire désossé.
Salé.
Oui. Et ça conservait, je dirais, presque éternum. Hein.
C'est pour ça que c'est aussi salé quand on mange de la morue.
Il faut qu'elle soit dessalée. La complication dans la morue, c'est qu'il faut savoir la dessaler. À un bon restaurant, elle a toujours un petit
Un goût de sel quand même.
Goût de sel. Ouais. Mais elle est dessalée avant, hein, sinon c'est pas mangeable.
Hein. Voilà. Écoute, on termine le voyage. Ça se termine comment?
Le dernier jour, il y a un repas
de gala.
Quelques larmes que personne ne veut rentrer.
Quelques larmes, voilà.
Et puis,
on se fait la bise tous et on dit on a passé une bonne semaine, c'était vachement bien.
J'accompagne à l'aéroport et puis.
Voilà. Alors ceux qui sont revenus en avion, toi tu les ramènes.
Oui, voilà.
Et ceux qui sont venus en moto, tu leur fais un.
Ils pourront continuer leur
un signe. Un signe du motard.
Ils pourront même éventuellement rester. Parce que là je suis basé. C'est neuf, hein, le truc. Sur une semaine, on peut rallonger quelques jours en plus. Hein, surtout pour ceux qui viennent avec leur bécane, ça coûte pas très très cher. J'ai pas de budget comme ça, mais pour 40 ou une quarantaine d'euros par jour, vous êtes, vous mangez, vous buvez, sans aucun souci. Hein.
Bon, tu as un site internet, hein. Bon, oui. Il y a un petit problème pour la pré-réservation qui marche pas.
Tout fonctionne sauf la pré-réservation.
Mais on te téléphone, bien sûr, forcément. Et, bah, donne ton nom de site.
Bah, le site, c'est www.motominho.com/MINHO Portugal, tout collé, motominho.portugal.com.
Et ton numéro de téléphone, éventuellement, si tu veux le donner, si tu oses.
Ah non, il n'y a aucun souci, le téléphone est sur le site. Hein. Le téléphone, c'est le 06 09 65 69 53. 06 09 65 69 53.
Bah écoute, Andonio, tu nous donnes envie d'aller visiter le nord du Portugal, hein, Nico.
Vous êtes les bienvenus.
Je pense qu'on va peut-être venir.
Ouais, Francis qui reprend la parole. Oui. Donc, effectivement, faire de la moto au Portugal et dans cette région-là, c'est un paradis. À la différence de nos régions ici sur la métropole lilloise où tout est saturé, tout est compliqué pour rouler, autant là-bas, c'est très fluide. Donc du coup, on a quand même, on apprécie différemment les choses. On roule à notre rythme, bien sûr, mais on n'est pas freiné. C'est pas un pays traversé. Alors,
les automobilistes portugais respectent les motards là-bas ?
Moyen, je dirais moyen. Ah. Non, les moyens sont pas très. Ils sont un peu jaloux qu'on les dépasse.
Ils sont jaloux.
Non, mais c'est vrai.
Ah bon ?
Non, mais c'est vrai.
Ils aiment pas trop.
Non, mais c'est ils sont pas encore très respectueux des motards, non. Il y a beaucoup à faire. Mais bon, dans la région où on roule, il n'y a pas trop de circulation automobile. C'est ça l'avantage. Hein. On n'est pas dans les grandes villes. Hein.
Alors aussi, je voudrais rajouter une palette de paysages extraordinaires, c'est-à-dire bon, la côte atlantique, ensuite des régions de campagne, montagneuses, etc. Donc on a tout pour se faire plaisir, quoi.
Par contre, la mer,
ouais.
C'est pas.
Ouais, c'est un peu. C'est l'Atlantique, elle est froide, mais quand vous partez
c'est
en
vacances. C'est pas du 28 degrés, hein.
Ouais, mais quand tu pars en vacances sur Arcachon ou les sables d'Olonne, tout ça, elle n'est pas plus chaude.
Faut pas s'attendre à avoir une mer très chaude.
C'est pas la
mer. Il vaut mieux aller à la piscine, peut-être.
Oui.
C'est préférable.
Tu sais, quand t'as fait une bonne journée de moto, t'as plus trop envie. Non.
Bon, merci Francis, merci Antonio. Écoute, on garde tes coordonnées. Hein.
Avec plaisir.
Et puis, on verra un peu comment on va faire.
Bienvenue au Portugal. Welcome. Oh. Muito obrigado.
Deixa-la ser desgraçada. Suspecting me, I used to have that whole damn force looking for me.
cops suspect me.
Eric, nous allons avoir, enfin, nous avons eu un Arnaud Davier du Brélon de Lyon. Mais que fait-il, Arnaud ?
Ben en ce moment, il est même en train de faire des visites en direct live sur Lyon parce qu'il fait très beau là-bas en mobylette. Et on a eu la chance de l'avoir au téléphone.
Et sa spécialité, donc, lui, c'est de faire visiter donc Lyon en Solex et en mob.
Alors, c'était en Solex jusqu'à il y a encore, enfin, il y a deux ans, c'était normalement que du pur Solex. Et effectivement, cette année, il a décidé de travailler sur de l'ancienne mobylette, mais pour les gens qui ont une cinquantaine d'années et qui, justement, ont des envies de revoir les mobylettes de leur
jeunesse. Ça marche bien, apparemment.
Ça marche, a priori, d'enfer.
D'enfer, voilà. Eh bien, on va écouter ce que nous dit Arnaud.
Tout à fait. Donc, en fait, Arnaud, on t'avait reçu il y a presque deux ans, en fait, hein, dans l'émission. C'était Patricia à l'époque. Et tu retapais des Solex. Et tu souhaitais, en fait, démarrer une activité de balade en Solex. Alors, en fait, on est loin des 8300 km dont on vient de parler avec Claude Duru, donc, qu'il a fait cet été, hein. Mais, en fait, toi, tu permets aux gens de pouvoir visiter Lyon et la région, j'imagine, soit assis sur des selles de Solex, soit un peu mieux aujourd'hui, c'est ça?
Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que le Brélon de Lyon, c'est avant tout un atelier. Hein, on fait des réparations, de la vente de pièces, la vente de véhicules. Et effectivement, voilà, on organise des balades de Lyon en Solex. Et historiquement, on a toujours fait les balades en Solex. Et là, depuis quelques temps, on vient de changer et on propose aussi des mobylettes pour faire les balades.
D'accord. Alors qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'es passé du Solex à la mobylette, sachant que t'as encore des Solex, hein?
Oui, bien sûr. Ouais, ouais, on fait à peu près moitié-moitié. C'est vrai qu'on a environ 14 véhicules. Et là, pour l'instant, voilà, on va avoir 7 Solex, 7 mobylettes. Bah, le changement, déjà, c'est une demande aussi, puis une attente, je pense, des gens. Le Solex, c'est quelque chose de mythique, c'est sympa, c'est un objet qui est vraiment chouette. Mais il faut aussi voir que les Solex, la plupart des gens qui ont une quarantaine d'années à peu près, ils ont tous roulé en mobylette.
Mmh, exact.
Donc, voilà, je me suis dit, on va faire un truc sympa. Et donc, j'ai mis un Ciao, Piaggio Ciao. J'ai mis une 103. J'ai mis de la moto bécane 51. Voilà, des modèles utilitaires en moto bécane aussi, type la Poste ou type la police.
D'accord.
Avec les... Voilà, enfin moi j'en ai une. C'est un ancien vitrier à Lyon qui a changé les carreaux en mobylette.
Et donc il y a encore la caisse derrière du vitrier pour
donc,
promener son verre.
J'ai mis une caisse de pinard devant. Hein,
d'accord.
C'est pour la déco. Et, non, mais c'est vrai, bah, je les équipe avec des belles sacoches. Il y a des supports de sacoches. Ça, c'est les mobylettes qui sont capables de porter 200 kilos.
D'accord.
Donc ouais, comme ça, quand j'en mets les équipes de rugby, il n'y a pas de problème.
Ils peuvent aussi le faire. Mais, et donc, ça veut dire que, en fait, tu as des mobylettes plutôt typiques, hein, des années des personnes qui ont 40-50 ans aujourd'hui et qu'ils ont envie de refaire. Donc les gens viennent, j'imagine, retrouver la mobylette qu'ils ont pu avoir quand ils étaient gamins, non ?
Et c'est ça. Et c'est plein d'émotions, parce que les gens, ils arrivent, la plupart, c'est des surprises, ils sont pas au courant, ils vont faire un tour de mobylette. Et là, bah, voilà, on discute et puis bah, je leur fais choisir le type de Brel qu'ils ont eu ou qu'ils n'ont jamais eu, ou que le frangin a eu ou que le cousin a eu, et qu'ils ont toujours vu passer sous leur nez, qu'ils n'en ont jamais fait.
D'accord.
Et là, c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir enfourcher le Brélon et de partir dans Lyon pendant deux heures. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'ouvrir la route et d'emmener tout le monde avec mes petits bébés. Mais maintenant, avec les mobylettes, je leur fais faire 20 minutes, une demi-heure, c'est une nouvelle formule.
D'accord, donc tu les laisses...
On les redémarre et après, je les laisse partir.
Ils D'accord.
Vont au GPS, il y a des balades dedans et ils peuvent faire... Le parcours qu'ils ont envie, en fait.
D'accord. Donc, en fait, on peut soit le faire en mode encadré, effectivement, où tu vas avec, soit on se débrouille avec un GPS, mais tu leur fais une mini-formation avant pour éviter trop de problèmes pendant la balade, j'imagine, des faux ou des vrais problèmes techniques.
Ah ben c'est ça, et puis à chaud, une mobilette, il faut mettre un petit coup de monnaie quand même pour les redémarrer, hein, il n'y a qu'un petit coup de gaz, voilà, c'est toutes ces petites subtilités, et ça leur permet de passer des bons moments, et là, le week-end dernier, il y avait quatre copains qui sont venus, qui se sont retrouvés, les Parisiens avec les Lyonnais, le gars de Savoie, et ils sont tous partis, tous les quatre, et ils se sont éclatés. Puis en mobilette, on peut aller à Fourvière maintenant.
Ben c'est ce que j'ai dit, en fait.
Les pentes de la Croix-Rousse en Solex, mais c'est vrai que là, on peut accéder à Fourvière, on peut aller faire un petit pique-nique sur l'île Barbe, juste à côté, enfin, c'est plutôt sympa, la mobilette, ça offre un peu plus de distance et je suis sûr qu'on peut aller plus loin.
Et du coup, effectivement, ce que tu peux faire avec la mobilette, ce que tu faisais pas forcément avec le Solex avant, et ce que font pas forcément les sorties vélo, parce que j'imagine que c'est la grand mode, hein, donc il y a des sorties vélo un peu partout dans toutes les villes. Ça te permet aussi avec les mobilettes d'offrir plus de largeur en fait de visite sur Lyon.
Oui, exactement. Puis écoute, je vais reprendre ça. L'autre jour, on s'arrête à un feu. On avait qu'une bande. On devait être 7 ou 8 en Solex et en mob. Et à côté, on a tous les gars en vélo électrique avec les espèces de petits drapeaux, les trucs oranges de partout. Alors on s'arrête au feu. Les mecs, ils lâchent tous leur vélo et ils nous prennent tous en photo. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Les gens, ils ont le sourire. En plus, on a essayé de mettre des casques sympas, des casques à paillettes. Et voilà, on n'a pas marqué trop nos sigles partout sur les mobilettes. C'est pas des
pontières. Elles sont pas toutes à ta peinture, ouais.
Et voilà, donc elles sont toutes les couleurs. Donc c'est que les gens quand ils se baladent, bah tout le monde vient. Voilà, les gens viennent les voir, ils discutent. Enfin voilà, ils ont l'impression que c'est leur brel, c'est leur aventure.
Et ça amène beaucoup de sympathie en fait. Beaucoup de sympathie, aussi bien des gens qui le font que des gens qui sont autour.
C'est ça.
Et donc. Et une fois qu'ils ont fini, alors justement, ces gens-là, c'est quoi leur état d'esprit? Ils ont envie de t'en acheter une, de partir avec celle sur laquelle ils ont roulé.
C'est à chaque fois que je ramène quelqu'un qui a envie d'acheter un Solex ou une mobilette, il le fait. Ça, ce serait du bonheur. Après, je sais pas comment, il faudrait y travailler nuit et jour. Mais c'est vrai que c'est hyper motivant. Les gens, ils ont envie. Surtout que, voilà, nous, on emmène vraiment des personnes de 14 ans jusqu'à plus de 80 ans, hein.
Ah oui, et, oui.
Mais la plupart des personnes qui ont 30, 40, 50 ans.
C'est typiquement dans l'âge.
Ouais.
Mobilette, hein.
J'y pense forcément. Mmh. On a 40 € d'assurance à l'année sur les véhicules comme ça. Ça consomme pas grand chose. Encore une fois, nous, on tourne avec de l'huile biodégradable.
D'accord.
Et ça, c'est génial. Donc là, on est sur une huile qui est biodégradable. Donc elle va pas partir dans l'atmosphère sur les deux temps. Et ça, c'est un truc qui est génial. Donc c'est vrai que ça pollue peu, ça consomme peu, ça coûte pas cher en assurance. C'était quand même fabriqué à l'époque pour durer, hein.
Justement,
aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut acheter qui est fait pour durer, alors, pas toute la vie, mais qui est fait pour durer, qui est costaud et qu'on va garder même si pratiquement toute la vie.
Le plus long aujourd'hui, c'est quasiment un chewing-gum. Hein.
Il y en a qui ont essayé, leurs dentistes qui sont contents.
Et justement, j'allais te poser la question par rapport à ça, parce qu'il y a un bashing systématisé en France aujourd'hui, hein, contre les moteurs thermiques, hein, c'est clair. Et t'as pas été un peu trop embêté par rapport à ça quand t'as créé ça, et par rapport justement aux vélos électriques qui sont en ville, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de concurrence et de se dire, tiens, c'est pas normal, et finalement, l'électrique, c'est mieux?
C'est pas évident, je pense qu'il faut, de toute façon, il faut la place pour tout le monde, faut être clair. Déjà, je pourrais pas filer des Solex et des mobilettes à toute la France. Non. Mais c'est vrai que, bon, après, voilà, c'est, comparer ça à un vélo nucléaire, c'est pas évident. Nous, on est quand même vraiment dans la restauration, donc c'est des choses qui ont déjà été fabriquées, hein. La plupart des mobilettes, c'est entièrement recyclable, il y a quand même pas beaucoup de plastique. Voilà, on réutilise des choses qui sont là, qui ont été bien fabriquées, qui sont costauds. Ça consomme très peu, tu vois, on fait pas de microparticules, et encore une fois, avec de l'huile biodégradable, on a un impact qui est vraiment raisonnable.
Et on montrait quasiment nul.
Voilà, donc les vélos électriques, c'est pas mal, mais encore une fois, voilà, je crois que sur les vélos électriques, certaines marques, le moteur, il change pas, on change pas les pièces, on le répare pas, on change le bloc moteur et on envoie tout à la poubelle. Voilà, nous, sur une mobilette, sur un Solex, on change la petite pièce qui pose problème et puis on repart. C'est vrai que c'est pas le même état d'esprit. Après, bon, sans parler des batteries, hein, qu'on sait toujours pas recycler, qui pollue énormément. Je crois que sur Lyon, là, les petites trottinettes de location, je crois que la durée de vie, ça doit être une cinquantaine de jours d'une trottinette.
D'accord.
Durée de vie, après c'est les jets, quoi.
Donc vive le Solex et les mobilettes d'époque. Et puis en fait, ça amène effectivement tout ce côté affection historique qu'on peut avoir. Voilà. Écoute.
Là, c'est sûr qu'au feu avec une mobilette, ça impressionne plus que certaines grosses motos ou autres grosses bagnoles. Et ça fait sourire les gens. Ça apporte du bonheur.
C'est vrai qu'effectivement, on me regarde plus avec mon Solex quand je me balade qu'avec la Harley. T'as tout à fait raison. Et c'est véridique. C'est vraiment véridique. Voilà. Bon, écoute, on va je vais pouvoir te laisser là. Juste une dernière question avant d'arrêter. Est-ce que tu as des nouvelles choses prévues à l'avenir pour proposer aux gens?
Je crois qu'on avait déjà parlé la dernière fois et c'est vrai qu'on était dans l'attente de pouvoir s'agrandir. Parce que justement, on a de plus en plus de demandes. Et puis, pour pouvoir mieux accueillir, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un atelier. Alors, c'est vrai que c'est sympa. Mais pour mieux accueillir les personnes pour les balades, on va ouvrir un nouveau lieu en face de l'atelier. Et là, ça va être vraiment le shop. On va pouvoir vendre, parce qu'on vend des casques, les gants, les accessoires, etc. Et puis j'ai trouvé un baby-foot en formica. Et puis on va mettre un vieux bar et puis on va créer l'association pour pouvoir réunir toutes les personnes sur Lyon et pouvoir développer encore tout ça. Et là, la devanture vient d'être posée, donc c'est quelque chose là sur début d'année qui va arriver. Il y aura un nouveau lieu à Lyon, super sympa. Ce sera peut-être l'occasion d'en reparler à ce moment-là.
Pourquoi pas ? Et ça sera l'occasion de venir. Et maintenant, on va être obligé de venir boire un coup en faisant un jeu de baby. Exactement.
Moi, je vous attends. Hein.
Ok. Bah, écoute, avec plaisir quand on passera dans le coin. Un grand merci, Arnaud. Je vais te laisser à tes occupations, en espérant que tu aies beaucoup de balades ce week-end.
Ouais. Après, on va voir avec le temps, mais effectivement, on a un groupe de 10 ou 11 personnes, là, je crois, pour un long temps en vie de garçon. Alors, écoute, ça fait beaucoup, mais bon, on s'espacera pour garder les distances et pour pouvoir rouler tranquillement. Mais je pense qu'avec la pluie, ça va être compliqué ce week-end.
Bon, on croise les doigts pour toi. Merci encore.
Merci pour tout et bonne route à tous.
Je t'en prie. Merci à toi aussi, à vous aussi. Merci. Au revoir.
Salut, au revoir.
Loving you have been a hard, hard call. And if you let me, I'll be your man, loving you have been a hard, hard fall. And if you let me, I'll be your man, yeah. We'll be right back.
Voilà, c'est, on continue notre, notre programme, Eric. On va parler de cette NBR.
Voilà, la NBR, donc la Normandie Beach Race, dont tu as fait tout à l'heure la promotion. Et non pas les racers,
pas
les
racers. Ouais.
Donc,
mais tu sais, moi, l'anglais. Hein.
Ouais, c'est pas grave, on s'en
c'est
veut pas.
Le principal, c'est de passionner.
Exactement. Donc, avec Bertrand, Nicolas et Quentin, on va revenir sur cette course. Alors, qu'est-ce que ça fait, en fait, de se retrouver dans Retour vers le futur, hein, c'est quasiment ça, avec plein de vieilles motos, de vieilles machines, de vieux hot rods autour de vous, et pour des courses qui sont nées après la guerre. C'est vraiment, on n'est plus du tout en ce moment, on est dans un monde parallèle, là.
Ah ben c'est une belle manifestation, et on va pas dire que, on va dire que ça va pas très vite, c'est pas impressionnant, mais il y a des belles motos, et chapeau aux gens qui mettent des belles machines comme ça dans le sable et qui les font rouler, et qui nous font découvrir une époque que nous n'avons pas connue.
Et ça se passe comment? C'est sur la ligne, c'est une ligne droite, y a pas de, c'est pas une boucle.
Donc il y a un bout de plage avec des runs, et puis un retour sur le paddock. Avec, bah, c'est bien espacé, il y a des gens... moi j'aime bien les beaux costumes vintage, tout ça, il y a des belles...
Ah oui, on voit sur les photos que
ouais, les gens
sont allés comme avant.
Ouais. Ah ouais, oui. C'est... Et puis il y a un esprit... pour nos amis écolos, après la fin de la manifestation, on a retrouvé 2 taches d'huile.
Non.
Donc c'est vachement bien. Ça prouve qu'on peut organiser les choses sereinement.
Oui, c'est d'ailleurs, c'est vraiment exceptionnel de
d'avoir pu faire ça cette année.
D'avoir pu faire ça. Alors, non, alors, non, mais
d'avoir pu faire ça.
Comme, comme Nicolas le dit. À cause de l'écologie, enfin, les écolos intégristes, hein, faut bien le reconnaître, hein, où on peut ne plus rien faire, voilà.
Et en fait, ils ont eu la chance, justement, ils ont la chance, et c'est ce que disait l'organisateur d'ailleurs quand il était interviewé à la télé, c'est que ils ont réussi à démontrer l'année dernière que après la course, la plage était plus propre qu'avant la course.
Tout à fait.
Et donc, ils se sont réengagés cette année à ce que, une fois que la course serait terminée, et une fois que le week-end serait terminé, eh ben, ils rendraient la plage mieux qu'elle l'était le jeudi. Et ça, ça a fait que les écologistes, et ils ont raison aussi de poser certaines marques quand ils sont pas extrémistes, eh ben, quand t'es né entre personnes intelligentes, on réussit
exactement
à faire des choses intelligentes.
Ouais. Tu sais que ce serait impossible de refaire un touquet, en 2020, ou en 2021, de créer un touquet, une manifestation de telle importance.
Au touquet, il y a 300 000 personnes.
Oui,
c'est plus compliqué.
Non, mais tu sais pas, là, c'était la deuxième édition, tu sais pas que dans 10 ans, peut-être qu'il y aura aussi 300 000 personnes.
Il y en a combien d'ailleurs? Public averti, quoi.
Il y avait combien de personnes d'ailleurs cette année?
Il y avait Bertrand d'ailleurs.
Oui, oui, moi j'étais là, mais j'étais pas tout seul. Il y avait 15 000 ou 14 999 autres personnes.
Non.
Oui,
15 000.
Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, et il y aurait pu y avoir davantage de monde si on n'était pas dans cette période de Covid. Donc pour compléter ce que disait auparavant mon ami, c'est une course qui se passe effectivement sur. Enfin, c'est pas vraiment une course, ce sont des runs qui ont lieu sur 200 mètres où. Il n'y a pas question de timing, de chrono, il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de prime à l'arrivée.
Il y a un drapeau quand même au départ.
Il y a un drapeau,
il y a une cellule, il y a l'arbre de Noël, tu sais, comme le vert orange.
Non, il n'y a pas de cellule.
À l'ancienne.
Le drapeau, c'est à l'ancienne, c'est une charmante jeune fille qui donne le départ, absolument.
Et qui
chauffe, d'ailleurs. Elle chauffe bien les concurrents et ça les aide à mettre les gaz.
Gaz.
Voilà, absolument. Et donc, ils sont là uniquement par passion. Enfin, ces mecs-là, ils sont habités, les motards particulièrement. On en voit passer, ils sont allongés sur la moto. Enfin, ils sont fous. C'est une manifestation, faut y aller, quoi.
Ouais. Disons, c'est pour s'entraîner pour aller à Bonneville, sur le lac Salé de Bonneville, éventuellement.
Et bah, écoute, justement, par rapport à ça, Quentin, tu as fait une vidéo là-dessus et on voit des machines qui, on a l'impression qu'elles viennent directement des lacs Salés pour les records de vitesse, des fusées, des choses comme ça.
Alors, j'ai pas pu les interroger, mais je sais vraiment pas ce que c'était. Mais c'est vrai que t'avais, comme je disais, une fusée à 4 roues.
Ouais, ouais.
Mais
alors, en fait, ça s'appelle des belly tanks. Et ce sont des réservoirs que les GI, après la Deuxième Guerre mondiale, récupéraient sur des avions, des forteresses volantes. Ce sont les réservoirs. Et comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, en fait, ils les récupéraient. Et ils mettaient un train roulant avant, arrière. Ils mettaient un moteur, alors ce qu'ils trouvaient. Donc là, notamment, il y en avait 3 ou 4, je crois, cette année sur la plage, et il y avait un 6-cylindres Chevrolet, il y en a avec des moteurs de moto, je crois, et bon, voilà.
Quentin, à chaque fois que tu viens dans l'émission, tu apprends des choses. Hein. L'exploratoire à moto,
c'est
à chaque fois.
Le gars qui avait ça, en fait, c'était un étranger, alors du coup, pour parler avec, c'était un peu compliqué.
Ah, tu t'as vu interviewer un anglais, d'ailleurs, à un moment donné.
Ouais. Mais après, la NBR, c'était pas que non plus la course. Je veux dire, toute la ville de Ouistreham était plongée dans une ambiance Amérique des années 50. Il y avait les food trucks avec de la nourriture américaine.
Ouais. J'ai même vu sur la route du retour des gens, on va dire sur la route de Dieppe et tout, rentrer avec des Rods sous la pluie, avec la capote et...
Et certains en panne.
Ouais, et c'est ça qui est quand même impressionnant, c'est qu'ils ont des super belles machines. Ils ont aussi bien en moto qu'en voiture, que nous, on oserait à peine sortir du garage. Et ces gens-là, ils les prennent, ils vont sous la flotte, ils s'en tapent, ils vont sur le sable, ils s'en tapent, tout ça pour faire du spectacle, partager leur passion avec tous les gens qui sont autour et ces 15 000 spectateurs. Est-ce que dans les spectateurs, vous avez vu des gens qui étaient aussi un peu plongés dans cette ambiance, habillés un petit peu à l'ancienne, ou est-ce que c'était que des gens qui venaient plutôt comme ça en visiteur?
Moi, j'ai vu énormément de gens habillés à l'ancienne. J'ai fait pas mal de photos d'ailleurs avec des costumes d'époque, il y a du esprit vintage, les habits, ce qui est le vent en poupe quoi.
Ouais.
Et puis il y a aussi les boutiques authentiques qui vendent des produits de qualité vintage, mais il y avait beaucoup de gens qui jouaient le jeu quoi.
Et ça,
puis il y avait aussi dans la ville, enfin moi je connais pas bien les autos, mais quelques belles voitures. Qui étaient sur le parking. Et puis
ouais, donc tu avais aussi un peu d'expo quoi, par rapport à ça.
Quelques beaux camions aussi. Et des commerçants heureux d'avoir un peu de monde et de pouvoir travailler. Et puis ce qui est positif, c'est qu'ils ont un maire qui se battra pour une troisième édition.
Ouais, et on ira si on peut y aller d'ailleurs.
On connaît le nombre total de participants, voitures, motos, camions. On sait pas.
Alors, il y avait pas de camion, mais cette année, encore une fois, c'était une année un peu particulière. Il y avait une centaine de concurrents répartis 50 motos, 50 voitures à peu près. Évidemment, les Anglais n'ont pas pu débarquer sur la plage comme ils l'ont fait il y a 60 ans en arrière.
Mais sachant qu'il y avait quand même plusieurs nationalités qui étaient,
il y avait
qui 12, étaient présentes.
12 nationalités de représentées, oui.
En fait, dans ce qu'on entendait dans les rues, dans la ville, les gens étaient surpris par l'affluence. Le monde. Et certains ont été des restaurateurs, tout ça, ils ont été surpris par l'affluence. Il y avait beaucoup de monde par rapport à ce qu'ils attendaient.
Ouais, bah, je pense qu'ils ont eu la chance aussi que ce soit un des rares événements de ce moment-là qui soit ouvert. Donc les gens voulaient se faire plaisir un petit peu là-bas. Il était hyper important cet événement parce que, en fait, je sais pas, j'imagine que vous connaissez tous Vintage Mécanique, hein, l'émission à la télé avec François Alain qui retape des vieilles voitures qu'on avait vu avec Quentin pendant la traversée de Paris en ancienne.
Il était
là-bas avec une 201, effectivement,
qu'ils avaient retapé.
Un compresseur qu'ils avaient retapé pour y aller.
Retaper, tu sais le principe de Hot Rod.
Retaper au mieux, puisque effectivement il faut tout enlever pour faire un Hot Rod.
En fait, voilà. ils ont permis qu'elle soit roulante.
Voilà. Et avec des vraies contraintes, hein, au niveau des Hot Rod sur la NBR en tout cas, c'est qu'effectivement ça doit être du Hot Rod sans garde-boue, sans flanc blanc, sans machin. Enfin, c'est vraiment le Hot Rod le plus simple, le plus light,
oui,
le
voilà,
plus
c'est ça, possible. Ouais. Et pour les motos, il y a une année barrière en fait.
1947.
On peut pas... Ah oui, pas au-dessus.
Pas au-dessus.
Ah oui, il faut déjà avoir une moto d'avant 47.
Bah, vous avez dû voir des WLA, WLC.
Moi, c'est une photo, la WLA.
À la pelle.
Moi, j'en ai jamais
donc
vu autant de réunis.
Ça limite quand même aussi les participants, là.
Par rapport, je pense que dans tous les cas, c'est des gens qui sont passionnés et qui mettent leur argent là-dedans. Donc, effectivement, une WLA, ça vaut pas rien. Mais d'un autre côté, une 201, ça vaut pas rien non plus. Et n'importe quel autre road, ça vaut pas rien. Je pense que c'est vraiment des choses de passionnés qui font plaisir à voir et qu'on voit encore aujourd'hui des gens aussi passionnés et qui sont prêts à partager leur passion avec tout le monde. C'est un vrai bonheur.
Et d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est que cette manifestation, elle a eu lieu le 25, 26 et 27 septembre. Elle s'est déroulée, en fait, qu'elle n'a pas été annulée. C'est vraiment incroyable.
Ouais, on va croiser les doigts pour que ce soit pareil. Ah oui, donc, il est passé entre les gouttes, dans tous les sens du terme, entre les gouttes du virus et entre les gouttes de l'eau, puisque ça, c'est quand même un temps relativement correct pour la saison. Et quand on parle de passionnés, on a Quentin avec nous, et vous le connaissez, puisque c'est notre explorateur en moto, qui est passionné et qui est en train de faire quelque chose de vachement intéressant pour la moto demain. Il est en train de faire un master sur l'histoire européenne. Jusque-là, vous allez dire, niveau moto, on s'en fiche un petit peu. Sauf que, il va nous faire quelque chose sur l'histoire de la moto française.
Oui, c'est bien ça, Eric. Alors, en fait, je fais... pour valider mon master, je dois faire un mémoire. Mon mémoire, c'est sur l'industrie motocycliste française de ses origines à nos jours. Ses origines, en fait, se placent en 1817-1818. Parce que je commence, en fait, par ce processus d'importation du deux-roues en France avec la Drésienne. Après, je compte étudier en fait toutes les motos d'avant 14, entre deux guerres, qui est la meilleure période pour moi, où vraiment la course de moto se démocratise. Tu vois, tu as le bol d'or qui est né en 1922, et bien sûr la chute de la moto française, on va dire, après-guerre. Et donc, dans l'idée, comme moi, j'ai fait un parcours cinéma avant le parcours histoire, je voudrais pouvoir faire de ça un film. Mais faire un film, ça nécessite des fonds. Actuellement, j'essaye d'aller à la recherche de ces fonds. J'aurais besoin de 35 000 euros pour pouvoir faire un film.
Donc un documentaire,
c'est ça. Je voudrais faire en fait un documentaire d'une heure et demie que je voudrais commercialiser en DVD pour pouvoir justement l'agrémenter de documents. Parce que l'idée d'être un historien, c'est justement de dire la vérité et de prouver la vérité. Mmh. Donc pour ça, je dois faire des recherches dans les archives, trouver ces documents, les photocopier, les référencer pour dire, vous voyez ce que je dis, c'est vrai.
Et donc ça, c'est pas si simple. Et effectivement, c'est original d'ailleurs hein, de faire un mémoire en
ça serait un bouquin avec un DVD à l'intérieur.
Je veux faire un film parce que moi je veux faire du cinéma, j'adore le cinéma, j'adore les vieilles mécaniques, j'adore les entendre et tout ça. Et comme je dis, j'ai fait une licence de cinéma, je sais le faire, mais c'est clairement, j'ai besoin des moyens financiers parce que ça me fait des déplacements dans toute la France pour aller à la rencontre des historiens, aller dans les lieux d'archives. Mais en plus de ça, enfin, j'ai un dossier qui est disponible sur internet, vous pouvez voir, en fait c'est sur litchi.com/c/ l'explorateur à moto, le tout attaché sans accent, où en fait c'est décrit comment je veux faire ce film. Donc déjà je vois des petites capsules fictionnelles où clairement là c'est juste pour placer le contexte. Comme par exemple je voyais placer le contexte 1913, je spoil un peu mais juste une scène. J'ai un ami qui a une moto de 1913, je l'aurais bien vu rouler sur la route, ramasser des champignons, s'arrêter et voir une affiche appel 1914. Voilà,
mobilisation.
Juste pour placer le contexte. Mais des trucs comme ça et plein de petites capsules pour...
Mais en tout cas, pour avoir dans un document unique, alors un document aussi bien vidéo que papier, récupérer l'histoire complète de la moto française, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui.
En tout cas, il nous fait déjà rêver.
Oui, exactement.
Oui, déjà, c'est important. Ça. C'est vrai que...
Ça...
Et donc, les documents, c'est des... tu appelles ça une capsule, c'est des petits... Des rushs, en fait, un petit qui dure 30 secondes.
C'est ça. Bah, dans l'idée, il y aurait des capsules...
Et après, il fallait chercher dans des films.
Dans l'idée, en fait, je fais des recherches dans les archives pour trouver, tiens, telle marque est née là, les syndicats, les manifestations qu'il y a eu chez Monégoyon, machin. Et en fait, avec ça, je compte interroger des historiens, des professeurs. Et j'aimerais surtout, pour dans les années 60, étudier le contexte social, puisqu'il n'y a pas de moto vraiment française dans les années 60, on est plus dans la mobilette. J'aimerais, enfin, surtout 70, je veux dire. Et j'aimerais interroger des gens, leur demander comment c'était le temps avant, c'était quoi votre moto et machin.
Donc ça commencerait à partir de 1960 ? Ah, maintenant
Non.
Là, ou alors c'est du début...
Non, j'ai dit 1817. 1817, c'est 2020.
C'est la première Harley Davidson.
Non, là on est loin. Donc 1817, il n'y a pas de moteur. Le premier moteur apparaît...
1817, on est loin, oui. C'est
1817, on est bien avant la Drésienne.
Non, c'est la Drésienne,
c'est
justement.
La Drésienne,
ouais. Mais là, il n'y a pas de moteur.
Il
hein.
n'y a pas de moteur, le moteur apparaît...
Tu étais au courant que ça a commencé en 1896
1900. C'est 1871.
Attends, tu vas voir ce qui va nous sortir en fait avec toutes ces recherches.
Les premiers moteurs...
C'est pas mal.
Et on va avoir des informations qu'on n'imagine même pas aujourd'hui.
On les a, les infos, mais ce qu'il doit faire, c'est bien. Quoi.
Ouais.
Bah, l'idée, c'est de le médiatiser. Je veux dire, maintenant, la moto, on n'en parle pas. Moi, je vois clairement, on médiatise tout ce qui va aller sur l'écologie et tout ça, et c'est comme ça qu'on se fait bouffer. On ne pourra plus rouler bientôt avec nos anciennes. Et moi, je veux médiatiser ce monde. Je veux que les gens se disent... Waouh, machin. Et en plus,
là, ce qui est grave avec cette fameuse écologie, c'est que c'est un patrimoine qui disparaît. Hein, parce
oui,
que
je veux dire,
qu'est-ce qui se passe, c'est que les voitures, on les met à la casse et puis parce c'est qu'on ça. Dit bah fine. Alors il y a Bertrand qui sourit. Non, Bertrand, c'est pas vrai.
Non, pas ça.
Moi, je continue comme rouler. Quentin, on ne pourra plus rouler avec. Oui, même pour faire plaisir, pour faire une petite balade, une démonstration.
Mais non, tu sais, souviens-toi ce que je disais tout à l'heure, entre gens intelligents, on sait faire des choses intelligentes.
Oui, bien sûr, mais
on désespère.
Je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de gens très intelligents, c'est ça le problème.
Et surtout un mur en face de nous, il ne faut pas l'oublier.
Là, voilà.
Le souci, c'est qu'on ne parle pas de la motopassion. Dès que je mets RMC... C'est de l'argent. On veut parler, on voit vers ça un patrimoine, comment dire, financier. Moi, je veux motopassion. Je veux dire, c'est waouh, tu vois. C'est du waouh, en fait, que je veux faire.
Là, tu vas choper le virus, si tu regardes ça. C'est sûr.
Bon, donc, en fait, tous ceux qui nous écoutent et qui aiment ça, ils peuvent aider Quentin de plusieurs façons. Soit, effectivement, en participant au Litchi, dont tu as parlé tout à l'heure, Litchi, l'explorateur en moto. Soit en t'aidant. En t'envoyant des documents, en te faisant visiter un musée dont ils sont propriétaires ou je ne sais quoi, un peu partout en France. Mais donc on fait un appel un petit peu à tous ces gens-là parce que c'est intéressant pour Quentin mais ça sera intéressant pour tout le monde de la moto, parce que je pense que ça sera intéressant de savoir effectivement toute cette histoire de la moto française qu'on n'a pas tous dans nos têtes aujourd'hui, et loin s'en faut, parce qu'on est plus souvent passionné des motos étrangères, mais il y a de la moto en France, il y a eu de la moto en France, et merci Quentin de travailler sur le sujet en tout cas.
À savoir que Quentin, il y aura sûrement le soutien de quelques passionnés, un club du Nord.
Notamment ouais, avec les vieux clous qui eux ont des...
Qui sont contents.
Bon, alors Bertrand, en voiture, je sais pas, est-ce que tu as vu des... Parce que nous, on n'y connaît rien en voiture. Hein. Mais bon, on profite que d'avoir un amateur de voitures, de vieilles voitures, des voitures anciennes, de alors, très vieilles voitures. Est-ce qu'il y avait des belles choses ?
Oui, 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 absolument. Bon, c'est une manifestation qui était très, très orientée Hot Rod. Le Hot Rod, c'est quoi ? C'est ça, le nom de Hot Rod, il vient de Roadster.
Hot Rod, c'est quoi ?
À l'origine, dans les années 40, en fait, on prenait des vieilles voitures qui avaient une dizaine d'années, voire un peu plus, et, principalement des roadsters, des cabriolets deux places. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tout simplement plus légers. Ouais. On continuait à les alléger en enlevant les marchepieds, les ailes, etc. Et puis, on y mettait des gros moteurs, donc les Américains.
Les V8, les V12, le Chevrolet.
Les V8. Les Américains sont très, très V8, avec des gros compresseurs. Et puis, on mettait un échappement libre. Et puis voilà, quoi, c'était...
C'est un peu l'idée des cafés raceurs en moto, en fait.
Absolument.
Des motos très légères pour aller très vite d'un point à un autre.
Donc voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de hot rods, mais il y avait également sur la place, en centre-ville de Ouistreham, une exposition de voitures, alors principalement, toujours dans la même optique, des voitures américaines, et avec énormément de chrome, vieilles voitures, pré-65, voilà.
Très bien, on termine cette séquence. Eric, on rappelle peut-être les informations pour Quentin, hein, pour éventuellement... servir notre petit obol.
Ton litchi, donc c'est litchi.
Et alors, moi, j'aime bien, c'est un jeune.
Ah bah oui. Enfin, là, vous le voyez
jeunes,
pas à la radio,
franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont des projets comme le sien.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, hein, franchement. Là.
Franchement,
ouais.
C'est
parce qu'à force, on a l'impression de parler peut-être entre vieux cons.
Entre nous, c'est ça.
On commence à sentir la naphtaline. Bon,
mon petit Quentin, est-ce que tu peux m'appeler ?
Je n'osais pas dire autre chose.
Voilà. Donc voilà, allez, Quentin,
s'il te plaît. Bah, alors, si vous voulez m'aider, c'est simple, c'est sur litchi.com/chez/l'explorateur à moto, ou sinon, vous allez sur ma page Facebook, l'explorateur à moto, et vous pouvez la retrouver.
Google, on fait ça, explorateur à moto, on t'invite directement sur toi, sur ton site. Voilà. Ok, ça marche, très bien. Eh bien, merci Quentin, et puis merci Bertrand, hein, de nous avoir éclairé sur tes ressources en voiture. Hein.
Merci à vous de nous avoir invités.
Merci Nicolas.
Merci la miche.
Allez, musique.
Slip away. and dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. And life unkind.
Très vite, on parle du Crépy Garage.
Oui, tout à fait. Donc là, on a eu Yves Vasseur au téléphone, un co-organisateur de la Old Race, qu'on va entendre tout de suite. Donc Yves, tu es le président de l'association Crépy Garage hein, et co-organisateur de la Old Race de Clermarais, à côté de Saint-Omer. Donc une course dans la lignée de la NBR dont on vient de parler. Et donc des courses, oui, des fameuses courses hein, en fait d'après-guerre. Alors déjà, pour commencer, le Crépy Garage, en fait, c'est quoi ?
Alors, le Crépy Garage, c'est une association de 5 personnes qui est spécialisée dans la restauration de véhicules américains et la transformation aussi en hot-rod ou custom des années 50.
Ouais, donc de véhicules, uniquement véhicules anciens.
Véhicules anciens, uniquement du véhicule ancien. On ne fait pas dans la Mustang moderne, on ne fait pas dans la Chevrolet moderne. On fait vraiment que dans le véhicule ancien, c'est-à-dire les véhicules encore à carbu, un peu d'injection, mais plus quand même le carbu, et surtout des beaux V8 qui ronronnent.
Les vrais mythes.
Et
vous faites ça depuis quand alors ?
Ah ben écoute, depuis 2007, on est installé dans notre local et on fait ça. Donc ça fait 13 ans, un peu plus de 13 ans maintenant que l'on fait. De l'américaine, avec la première voiture que j'ai pu faire, c'était une Mustang 66, ma première américaine que j'avais achetée, et que j'ai démontée et refait entièrement.
Nickel, parfait. Et le fameux nom de Crépy Garage, en fait, ça vient de quoi ?
Alors, le Crépy Garage, c'est un personnage de bande dessinée d'un fanzine américain qui date des années 60-70, je sais pas si tu connais un peu les genres Conte de la crypte,
Tout à fait.
Crypto Show qu'il y a pu y avoir comme film, où c'est un personnage qui raconte des histoires un peu macabres. Et le logo nous a toujours plu. Je veux dire, le Uncle Crépy a une tête un peu mauvaise. Et c'est ce qui nous a permis de faire notre logo avec. Et depuis ce temps-là, on appelait ça le Crépy Garage.
Ça veut dire que vous faites peur quand vous vous promenez, c'est ça ?
On fait peur.
Non, bon.
On ne fait pas peur, mais...
Non, je plaisante.
C'était pour avoir un peu d'humour, pour changer d'avoir des speech-ups, des trucs comme ça au niveau logo.
Quoi. Ouais. Alors le mot garage, hein, c'est bien pris dans son sens originel, hein, c'est bien un lieu où on fait de la mécanique, hein, c'est pas un commerce voilà, en fait voilà. Qui est associé.
Mais on n'est pas un garage proprement dit.
Donc commerce, ouais.
C'est vraiment le nom, c'est Crépy Garage, mais c'est plus une asso. Hein.
D'accord. Alors et donc avec des amis, dont l'association Garage Land aussi, un garage, et voilà. Le propriétaire de la ferme de l'abbaye de Clermarais, hein, ferme de l'abbaye effectivement à Clermarais. Donc autour d'un verre un soir, enfin un verre ou un peu plus, hein, je sais pas trop. Donc vous avez eu l'idée, de créer une fameuse course, hein, c'est ça ?
Voilà, si tu veux, on était justement au local ici à Marquise, tous les trois, et avec Johan Vega qui est le président du
Garage Land
et Charles Canner, qui lui est le propriétaire de la ferme de l'abbaye, où on était parti sur un peu avant la NBR, puisqu'on était en 2017 à l'époque, et on voulait justement peut-être créer une course sur sable dans la région, puisque nous on n'est pas loin de la mer.
Oui, c'est à Marquise, c'est
après,
ça.
Et... le problème, c'était quand même un peu les écologistes. On s'est dit, il y a déjà le Touquet. Il y a des courses sur sable au Touquet, il y a l'enduro. Est-ce que ça va passer ?
Ouais, au niveau des deux caps, de faire ce genre de choses, ouais.
Voilà. Et là, notre ami Charles nous a dit, moi j'ai assez d'hectares de terrain pour pouvoir peut-être organiser un ovale, ce qui changerait puisque on n'en a pas beaucoup en France. C'est plus comment dans les pays de l'Est. Donc on peut créer un ovale. Il est en plus, j'ai la place pour recevoir un car show. Et on a même de la place pour recevoir des campeurs occasionnels. Donc c'est de là qu'est partie l'aventure. On s'était donné 2 ans pour pouvoir faire la première épreuve en 2019, donc le 3 et 4 juillet. On était bien partis, mais bon, malheureusement, avec,
2020,
avec le Covid, on a dû repousser à 2021.
Ouais. Et donc, c'est quoi le type de véhicule que vous acceptez pendant cette course, pendant ces runs, hein, enfin, en fait, pendant ce week-end de fête, c'est quoi? Il y a de la voiture, de la moto?
Voilà. Sur les runs que l'on va organiser, donc on s'est limité pour la première à 50 véhicules, c'est-à-dire auto et moto. En tout, il n'y aura que 50 véhicules maximum sur la piste, pour des raisons de sécurité. Oui. Et comme c'est une première, on va découvrir peut-être des choses. Dans tous les cas, les véhicules, c'est des motos d'avant 65.
Plus vieilles que nous.
Et les voitures, pareil. Et là, actuellement, les plus anciennes que l'on peut avoir d'inscrites, c'est 1928, que ce soit en moto ou en voiture. Avec de l'américaine, de l'européenne, on peut avoir de l'allemande aussi. Généralement, ouais. On ne s'est pas restreint à avoir que des véhicules américains.
Mais sinon, il y a de la Harley-Davidson, j'imagine, de 1928, sûr, des WLA WLA, ou des choses comme ça.
Oui, il y a de toutes les années. J'ai des Harley de toutes les années. Bon, là, je ne l'ai pas sous les yeux.
La liste complète, mais effectivement, on imagine bien.
On a plein. En plus, on a des gens qui viennent de beaucoup de Belgique, de Hollande. On a aussi des Anglais qui s'étaient inscrits, mais on espère qu'ils vont se réinscrire cette année.
Qui vont pouvoir repasser la Manche cette année, ouais, c'est peut-être pas gagné.
Bah, voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils vont avoir une 14e ou pas? On ne sait pas encore. Donc on espère que ça va bien se passer.
D'accord. Et en voiture, alors, les plus vieilles voitures, c'est quoi? Il y a de la française, il y a quoi?
Bah, la plus vieille, c'est une 1928, mais c'est de la Ford.
Ouais.
Sinon, on a de la Peugeot, on a de la Peugeot 201.
Ah oui, très vieille Peugeot.
Ouais, on a de la Peugeot 201, et on a de la Prima 4 aussi, je crois, de tête, ouais.
Ouais, ok. Hein,
sinon, après, c'est beaucoup de Ford ou de Chevrolet.
Et donc vous avez décidé d'organiser ça. Malheureusement, la première aura pas lieu. Il y a du run, ça dure tout le week-end, mais tu fais aussi des ventes de pièces, des échanges, enfin tout ce qui tourne autour de la voiture ancienne, en fait.
Voilà, dans l'enceinte de la ferme, hein, là on aura donc une exposition, un car show, pareil pour les véhicules de près 65. Donc là, ça va être beaucoup plus de custom, de hot rod, des véhicules que nous on connaît de gens qu'on a rencontrés, que ce soit dans des meetings, dans des expos, donc qui sont des très beaux véhicules, bien sûr. Et en plus, on a des stands et on aura aussi de la restauration avec des food trucks. Et en plus, maintenant, à l'abbaye, on a une brasserie qui est la brasserie de la ferme de l'abbaye, où ils font une très bonne bière et qui sera vraiment sur place, avec possibilité en plus de la visiter, puisqu'elle est toute neuve,
d'accord.
Et elle est dans l'enceinte de la ferme, elle est vraiment dans les locaux de la ferme.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette ferme, c'est une ferme immense, effectivement, à l'entrée de Clermarais, et qui permet de faire entre autres mariage et autre chose, et effectivement c'est parfait pour ce genre d'événement, où on peut effectivement y mettre tout genre de stand ou autre à l'intérieur, c'est nickel. Et donc par rapport à ça, le week-end étant festif, ça dure 3 jours, hein, il va y avoir des concerts, des choses comme ça, en plus effectivement des food trucks et des courses.
Voilà, donc on va dire le festival commence le vendredi, avec le vendredi après-midi on a les contrôles techniques des véhicules, que ce soit moto et auto, de ceux qui vont rouler sur l'ovale, et bien sûr au soir il y a la fête, avec il y aura déjà des concerts. Le samedi et le dimanche, il y a des concerts. Et entre les deux, il y a quand même aussi des DJ qui vont faire tourner la musique.
Qui vont mettre de l'animation.
Bien sûr, basé sur du rock'n'roll, du hard rock. C'est plus rock'n'roll.
D'accord, nickel. Et donc, il y aura des runs, en fait, toute la journée sur ce fameux ovale. Voilà. Sachant que ce ne sont pas des courses chronométrées, etc. C'est vraiment du run fun, en fait.
Voilà, c'est ce qu'on appelle des séances de roulage. Hein, on appelle ça plutôt des séances de roulage, où les gens... on va pas déterminer qui part avec qui, c'est vraiment convivial. Chacun partira avec le collègue qu'il connaît, en se disant ben voilà, on tourne à deux, ainsi de suite, que ce soit en moto ou en voiture.
Ouais.
Et il y a aucun chronomètre. au chronométrage qui sera fait.
C'est le premier qui passait la ligne. Voilà, le premier qui passait la ligne.
C'est juste le principe.
Ok, nickel. Par rapport à ça, effectivement, il y aura énormément donc, de très vieilles voitures, des superbes hot rods et des très vieilles belles motos. Mais il y a aussi un parking où les gens qui ont des muscle cars plus récents, etc., pourront venir pour faire de l'exposition.
Tout à fait. Hein. Tout à fait. À l'entrée de l'abbaye. Dans tous les cas, on va passer un plan sur le Facebook qui a été effectué là actuellement. À l'entrée de l'abbaye, on aura tout ce qui sera poste 65, donc tout ce qui est véhicule moderne. Ou même un peu plus, même des années 70, tout sera parqué sur l'entrée de l'abbaye. Et aussi, bien sûr, s'il y a de la Cox, parce qu'il y a quand même, on a quand même des potes qui ont de la Cox, membres de Cox, et donc il n'y a aucun souci pour recevoir tous ces véhicules.
D'accord. Et vos propres voitures, alors qu'ils sortent de Creepy Garage ou l'autre, en fait, elles vont participer à ces courses, à ces runs.
Oui, bien sûr. Bon, on n'aura peut-être pas, nous, l'occasion, je dirais, de tourner pendant vraiment les courses.
Et tu auras d'autres choses à faire.
Voilà, on aura autre chose à faire, plutôt l'encadrement. Mais c'est sûr qu'on aura essayé, puisque nous, on y sera déjà toute la semaine, on aura essayé toute la semaine le circuit, en espérant que le climat le permette. Donc on aura essayé tous ensemble déjà le circuit. Bien sûr, si on a l'occasion de pouvoir participer avec les gars,
vous en profiterez aussi.
Et ça sera de bon cœur et surtout toujours dans un esprit convivial.
Ouais, sachant que ce sera fin mai, donc a priori à ce niveau-là, on croise les doigts, mais le climat devrait être à peu près correct, même si on peut jamais garantir de ce côté-là.
Non, tout à fait, parce que même si cette année on avait eu la chance de le faire le 3 et 4 juillet, comme 3, 4, 5 juillet, comme on l'avait pas vu. C'était un week-end plus vieux.
Cette année, c'était un week-end pourri, effectivement.
Voilà, mais pourri de chez pourri, quoi.
Ok, donc les gens peuvent déjà se procurer les passes sur le site de la Old Race.
Voilà, ils vont sur le site de la Old Race. Donc, on a un système de pré-vente. De là, les gars, la personne envoie sa demande. Et nous, on répond, bien sûr. Et au niveau du règlement, c'est soit par chèque, soit par RIB. Hein, on fournit le RIB de l'assaut. Et puisqu'on a créé une asso qui est la Old Race pour pouvoir effectuer tout ça. Et de là, on fournit un ticket par rapport au nombre de personnes qui sera remis à l'entrée de la ferme sur le site. Là, on remettra un pass, je veux dire un bracelet qui permettra d'être 3 jours, 2 jours ou 1 journée.
Ou une journée sur le site.
Ce que la personne a décidé de faire.
Ok, nickel. Bon, bah écoute, Yves, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé tout ça.
Je vous remercie de nous faire un petit peu de pub là-dessus parce que pour une fois qu'on essaye d'organiser quelque chose dans les Hauts-de-France.
Exactement, ça vaut la peine.
Donc, c'est pas plus mal d'avoir une. Un support médiatique avec vous. Quoi.
Exactement. Écoute, on ne manquera pas de rappeler, en tout cas, le moment venu, quand on sera au mois de mai, que ça se passe dans la région. Un grand merci encore, et donc à très bientôt. Et d'ici là, amusez-vous bien avec vos voitures et retapez-nous ça parfaitement bien.
Ok, ça marche. Et puis, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. On est toujours ouvert et on a toujours de la bonne bière ou du whisky.
Ah, alors là, du coup, on est obligé de venir. Merci, voilà. Yves.
Consommer avec modération.
Hein, bien sûr, on prendra des chauffeurs. Merci beaucoup encore. Sweet dreams, hope the sun was gonna get ya. Don't know how to get it right, been living on my own. Rest your soul, hope somebody's gonna let ya. I've been down, stayed up all night, feel it in my bones. My life been a hike uphill, you betcha. Lonesome struggle through the dark of night, just waiting for the dawn.
Le magazine de la moto s'est terminé. Nous vous souhaitons une bonne semaine et une nouvelle fois une belle année. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit, sur le 106,6 de Radio Campus Lille. Au revoir.